Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean, bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un adolescent de 15 ans et sa mère toujours en garde à vue ce matin pour le meurtre de Mathis, 15 ans, lui aussi ce week-end à Châteauroux. L'ultra-violence des jeunes et des profs obligés de suivre des cours de Krav Maga pour apprendre à se défendre. En football, le PSG a beau désormais être champion de France, pas sûr qu'il obtienne un accueil chaleureux mercredi à Dortmund pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Et puis les dernières tendances dans les rayons, les prix qui augmentent, ceux qui baissent. L'huile d'olive, tiens, a pris jusqu'à 20% de hausse. Jusqu'à quand? On va faire nos courses à 8h30. Mon invité, ce sera Michel-Édouard Leclerc. Qu'est-il arrivé à Mathis samedi soir à Châteauroux?
Ce jeune de 15 ans, apprenti cuisinier, a été tué en pleine rue de plusieurs coups de couteau pour une raison encore inconnue. Un suspect du même âge que lui est toujours en garde à vue ce matin. Il a été très rapidement arrêté par les forces de l'ordre. Guillaume Bier, vous êtes le chef du service police-justice d'RMC. Que sait-on de cet adolescent soupçonné d'avoir tué Mathis?
Eh bien, on sait que ce sont des témoins du drame sur place qui l'ont désigné aux enquêteurs dès samedi. C'est un adolescent de 15 ans, de nationalité afghane, en situation régulière en France. Pour l'instant, on ne sait pas pour quelle raison ni dans quel contexte il aurait poignardé Mathis du même âge que lui. D'après la procureure, la mère du suspect pourrait aussi avoir joué un rôle dans cette affaire. C'est pour ça qu'elle est en garde à vue également. En revanche, on sait que son fils a déjà été arrêté une semaine auparavant. Il était même mis en examen pour une précédente agression dans un parc de Châteauroux en plein après-midi. Plusieurs personnes s'en étaient pris à un jeune homme, volé son téléphone portable sous la menace d'un couteau, peut-être lors d'un guet-apens. C'est l'une des hypothèses de l'enquête en cours qui est menée par un juge.
Guillaume, vous en parliez, le suspect était déjà mis en examen pour violence. Comment se fait-il qu'il était encore en liberté ?
Eh bien, il était sous contrôle judiciaire tout simplement parce que c'est ce que prévoit la loi. Cet adolescent est mis en examen pour un délit, vol avec violence aggravée. Or, c'est uniquement pour une affaire criminelle qu'un jeune de 15 ans peut être placé en détention provisoire. On rappelle que pour ces deux affaires, il est toujours présumé innocent et que jusqu'à présent, il n'a jamais été condamné.
Guillaume Bier, chef du service police-justice d'RMC. Hasard de calendrier ou multiplication des affaires, c'est aujourd'hui que Gabriel Attal entame ses consultations sur l'ultra-violence chez les jeunes. Le Premier ministre va recevoir tous les chefs de parti. Violence tournée parfois vers le corps enseignant. La semaine dernière encore à Toulouse, un professeur de technologie se faisait gifler en plein cours. Et face à ce fléau, de plus en plus d'enseignants se tournent vers l'autodéfense, à tel point qu'un club de Krav Maga des Yvelines a décidé de donner bénévolement des cours dédiés aux profs, cours auxquels Alfred Orange a pu assister pour RMC.
Autour du tatami, une quinzaine de profs en survêtement et en chaussettes écoutent Mamadou,
qui a déjà fait du Krav Maga,
leur professeur d'un soir qui donne la leçon.
Le stress, la peur vont faire que je vais perdre mes capacités physiques. C'est pour ça qu'en Krav Maga, on travaille sur des choses simples.
En utilisant notamment la voix et les bras pour se mettre à distance en cas d'agression physique.
Recule.
Lydia, institutrice, vient pour la première fois.
Ouais, mais déjà, tu sais, de montrer. Recule, et là, il peut être surpris, il se dit « Ouh, en fait, ça va pas être si facile que ça ».
En deux heures, tous les scénarios d'attaque sont abordés, du coup de poing au coup de couteau.
Surveille les arrières !
Awa, assistante d'éducation, est une habituée. Apprendre à se défendre à l'école est devenu un besoin.
Ce qui s'est passé à Arras peut arriver ailleurs, donc il faut qu'on soit prêt. Pas vivre dans cette peur permanente de se dire qu'il va y avoir quelque chose, parce que ce ne serait pas faire évoluer les élèves dans un environnement sain non plus, mais c'est de se dire ok, au cas où, les deux, trois petits réflexes que le coach nous a montrés peuvent nous sauver la vie tout simplement.
Devant cet engouement, le club le dit, il pérennisera la rentrée prochaine ses cours gratuits d'autodéfense pour le monde enseignant.
8h03 sur RMC, du nouveau dans l'affaire des respirateurs défectueux Philips qu'on vous révélait. Philips qui annonce avoir trouvé un accord avec des plaignants aux États-Unis et avoir versé plus $1 milliard pour régler ces litiges. En France, pour les mêmes motifs, plus de 200 personnes ont porté plainte. C'est une information qu'RMC vous a révélée ce matin. Les ventes de vélos neufs sont en chute libre, moins 14% l'an dernier par rapport à 2022, selon la dernière enquête réalisée par le syndicat l'Union Sport et Cycle, conséquence notamment de l'inflation. Et tiens, où en est-on de l'inflation dans les rayons de nos supermarchés? Elle a fortement diminué ce mois-ci. On est à plus 0,5% par rapport à avril 2023 et ça se ressent au moment de passer en caisse, Victor Joannin.
Oui, les prix des produits alimentaires sont en moyenne 1,7% plus élevés qu'il y a un an. C'est l'INSEE qui le dit, ce qui veut dire que ces prix continuent d'augmenter, mais de moins en moins vite. Ce qui veut dire aussi que les tickets de caisse ne reviendront pas au niveau d'avant-crise. Dans le détail, certains produits tirent le prix du caddie vers le haut. C'est le cas du sucre, des huiles et surtout du chocolat. À l'inverse, les produits frais, les légumes surtout, sont moins chers qu'il y a un an. Les prix des carottes et des salades sont en chute libre. Les spécialistes prévoient que l'inflation reste à ce rythme modéré dans les mois à venir, sauf si le conflit au Moyen-Orient s'aggrave, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le coût de l'énergie et donc dans les rayons des supermarchés.
Et à 8h30, Apolline recevra Michel-Édouard Leclerc pour parler notamment de l'inflation. C'est aujourd'hui que le Hamas doit donner sa réponse à la proposition de trêve à Gaza avec Israël. Et l'un de ses responsables a déjà indiqué qu'il n'y voyait aucun problème majeur. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé sa tournée au Moyen-Orient. Après l'Arabie Saoudite, il se rendra en Jordanie et en Israël. Il est 8h05 sur RMC. Le mois de mai va rimer avec paix pour beaucoup de salariés français qui vont pouvoir profiter de différents jours fériés pour se faire des ponts ultra longs. C'est particulièrement avantageux cette année, mais pas évident à gérer pour les entreprises, Lucas Laubert.
Oui, parce que ces ponts de mai, beaucoup comptent en profiter. C'est le cas dans l'entreprise Axens, une société de conseil en énergie. Cyril Kitt est salarié, elle a posé des jours de congé.
Le 2 et le 3 mai, donc ce qui me fait un énorme pont. Normalement, ça fait 5 jours, je profite, comme beaucoup de Français.
En mai, fais ce qu'il te plaît, oui, mais pas pour tout le monde non plus. Il faut faire des choix pour Stéphanie Paris-Faux, directrice des ressources humaines dans cette entreprise francilienne.
Il y a plus d'arbitrage que d'habitude, parce qu'il y a plus de demandes que d'habitude. Les managers ne peuvent pas dire oui à tout le monde.
D'autant plus que malgré les ponts, l'entreprise doit continuer de tourner.
On a des clients partout dans le monde. Le mois de mai, c'est pas leur sujet. On peut pas se permettre d'avoir toutes les équipes en vacances. Donc ça s'anticipe et ça s'organise.
Mais parfois, ça coûte aussi de l'argent. C'est le cas dans le secteur industriel, par exemple. Benoît Serre est le vice-président de l'Association nationale des DRH.
Vous n'avez pas arrêté votre usine. Donc ça veut dire que là, vous avez soit des gens qui peuvent pas prendre le pont, soit vous avez des jours fériés qui restent des jours travaillés dans cette hypothèse. Dans ce cas-là, les gens sont payés plus cher.
Des ponts qui coïncident en plus avec la fin des soldes de congés payés. En mai, beaucoup de salariés posent leur dernier jour disponible.
Eux se reposeront plus tard. Les Parisiens, sacrés champions de France hier grâce à la défaite de Monaco 3-2 face à Lyon, cap désormais sur la demi-finale de la Ligue des Champions. Match aller à Dortmund mercredi, mais on ne peut pas dire, Valentin Jamin, que les Allemands soient ravis d'accueillir nos Parisiens.
Oui, question de valeur selon certains supporters.
The players are, arrogant.
Les joueurs parisiens sont arrogants, pense Claudia, venue au stade avec son fils. L'inverse de ce qu'aime le public ici, qui ne veut pas entendre parler de supériorité du PSG.
Oui, Paris joue bien grâce à Mbappé, mais nous sommes très compétitifs en Ligue des Champions et ce sera vraiment dur pour le PSG.
Et nous avons une bonne équipe et surtout très complète. On va gagner 3-1.
Les fans allemands moquent la politique parisienne des stars achetées cher avec l'argent du Qatar, un pays très critiquables, disent les plus fervents. Les dirigeants de Dortmund ont aussi rappelé par le passé la masse salariale très élevée du PSG. Patrick Berger est journaliste à Sky Sports Dortmund.
Les gens ici sont fiers de gagner de l'argent ou des titres par eux-mêmes, au mérite, avec l'environnement de la ville, les sponsors locaux, les fans. C'est une spécificité allemande. Et donc, les supporters espèrent battre une équipe comme Paris, qui est soutenue par un État.
Ces supporters accusent aussi Paris de réduire leur nombre de places pour le match retour et des déplore de nouveau le prix des billets au Parc des Princes comme il l'avait fait en phase de groupe.
Les Allemands qui préféreront peut-être mieux les Brestois assurés d'un avenir européen la saison prochaine grâce à leur spectaculaire victoire 5-4 hier face à Rennes, ou pourquoi pas l'OM qui se replace un peu dans la course à l'Europe après un match gagné face à Lens 2-1. Ça va Charles ?
Oui ?
Oui ?
Ah oui, non, je suis confiant là pour Dortmund. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, on en reparle mercredi matin, ce sera peut-être moins le cas. Mais là, on est à l'endemain de titre et tout. Non, non, on profite, on savoure.
8h08 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Faut-il rouvrir le débat sur la GPA, la gestation pour autrui, et autoriser les mères porteuses en France? Pour mon prochain invité, c'est oui. Il est même favorable à la légalisation des mères porteuses. Le gynécologue François Oliven défend son parti pris dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Mais dès maintenant, on va lire vos réactions, vos témoignages sur cette question de la GPA. Faut-il ouvrir le débat en France ? C'est ce que demande sur RMC la ministre Sarah Alaïri. On sait qu'Emmanuel Macron a plusieurs fois répété son opposition à la GPA. Et vous, qu'en dites-vous ? Eh bien, Jérémy nous dit, la réalité, c'est que beaucoup de Français partent déjà aujourd'hui aux USA, en Amérique latine, en Ukraine. Donc, ouvrons l'accès à la GPA en France. Évitons à tous ces couples français ce parcours du combattant à l'étranger, écrit Jérémy. Alex nous dit, le vrai problème que pose la GPA, c'est l'homophobie latente de la société française. Je ne suis pas sûr que la société soit prête à avoir ce débat, écrit Alex. Et puis Nathalie nous dit, moi je comprends le désir d'enfant, mais il n'excuse pas toutes les dérives. Quand on loue le corps d'une femme, on sait qu'on déclenchera forcément beaucoup de souffrance pour elle. Elle devra abandonner l'enfant qu'elle a porté. Que dira-t-on à cette femme si elle regrette son choix quelques années plus tard ? Voilà ce que se demande Nathalie. Mais vous aussi, vous n'hésitez pas à venir réagir en direct sur cette question de la GPA. Vous connaissez le chemin, il suffit de composer le 3216 et vous êtes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC.
Le parti pris.
Le parti pris ce matin, le parti pris du docteur François Oliven. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, obstétricien, bien connu du grand public. Je vous ai d'ailleurs souvent reçu ici. Mais j'ai une question ce matin, parce qu'on ouvre la question aussi du débat sur la GPA. C'est la ministre de la Famille qui a dit hier sur RMC qu'il fallait rouvrir ce débat. Faisons-le avec vous ce matin. Votre parti pris sur la GPA, professeur, oui ou non ?
Oui, mais... c'est-à-dire... Je pense qu'une certaine forme de GPA qu'on critique souvent... On a appelé la GPA éthique, c'est-à-dire, moi, pour moi, c'est oui à la GPA, à condition qu'il ne s'agisse pas de l'exploitation des femmes, de profiter de femmes qui ont besoin d'argent, et de faire une sorte d'esclavage, comme on a vu dans certains reportages tout à fait choquants en Inde, où elles étaient plus ou moins parquées dans les hôtels, ou bien, des femmes assez pauvres en Ukraine, voilà, donc ce genre de GPA-là, non. Une GPA, si possible, éthique, avec le gros problème qui est son coût exorbitant, je pense que ça mérite en tout cas d'être débattu.
Être débattu, ouvrir le débat, donc au minimum, oui, et la GPA, oui, mais... Quand vous dites oui, mais, c'est-à-dire, comment est-ce que vous imaginez pouvoir distinguer la question ? Au fond, c'est la position hein, que quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, qui était à mon micro vendredi, disait oui à la GPA. S'il n'y a pas de rapport mercantile, est-ce que ça veut dire qu'il faut carrément supprimer toute idée de marchandisation ? Ou est-ce que payer oui, mais en s'assurant du background, en s'assurant... Comment vous faites
ça, oui. Alors, pour moi, en fait, il y a deux questions qui posent problème avec la GPA. D'abord, je voudrais faire une remarque préliminaire en rappelant quand même qu'on parle de 200-300 enfants par an en France. Donc, c'est quand même une activité marginale. Alors, elle est souvent...
Quand vous dites en France, d'ailleurs, on va préciser les choses, c'est-à-dire 200-300 oui. enfants qui arrivent en France, mais puisque qui ça ne se fait pas sur le sol français.
En France, c'est illégal, tout à fait, vous avez parfaitement raison. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait toujours la une médiatique, mais c'est pas énorme. Pour avoir une idée, on estime une autre technique, on appelle le don d'ovocytes, qui se fait beaucoup à l'étranger. Là, on parle peut-être de 15 000 femmes par an. Donc, vous voyez, il y a quand même un écart. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous donner quand même le fait qu'il ne faut pas s'imaginer que la France est, entre guillemets, envahie de couples qui foncent faire des GPA. Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est la fameuse séparation de l'enfant avec la mère qui l'a porté, et il y a cette histoire de mercantilisation. Je pense, par exemple, d'abord, moi, j'ai rencontré dans ma carrière des femmes qui ont accepté, est-ce qu'elles l'ont fait, j'en sais rien, parce que moi, je les suis pas, de porter un enfant pour une autre femme gratuitement, bénévolement, pour rendre service, une amie, quelqu'un de la famille ou des choses comme ça. Ça existe, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Et deuxièmement, par exemple, aux États-Unis, il y a des États qui ont imposé un certain seuil de revenus des femmes qui se prêtent à cette GPA pour s'assurer justement que c'est pas uniquement l'appât du gain qui fait ça. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de reportages qui ont interviewé des femmes qui ont porté des enfants Et ces femmes, je veux bien qu'on raconte qu'elles sont toutes folles, menteuses, je sais pas quoi. Enfin, on a même utilisé à un moment donné le terme de prostitution. Quand une femme dit « moi, j'ai eu envie de faire une GPA pour rendre service à une autre femme », c'est pas une lubie, ça existe. Donc si on arrive à encadrer et faire en sorte qu'on puisse recueillir un consentement éclairé de ces femmes, qu'il y ait une véritable altruisme dans leur démarche, qu'elles soient dédommagées, ça me paraît pas absolument scandaleux, mais que ça soit pas pour elles juste une manière de gagner de l'argent et qu'elles le fassent finalement contre leur gré, à ce moment-là, ça pourrait être possible.
Et dans ces cas-là, effectivement, c'est votre mais, oui, mais. Et justement, professeur François Olivier, je voudrais qu'on puisse accueillir le témoignage d'Ibrahim, qui nous appelle de Cagnes-sur-Mer. Bonjour Ibrahim.
Bonjour.
Vous êtes vous-même infirmier libéral, et vous vouliez témoigner de cette question de la GPA que vous avez rencontrée, notamment chez des amis.
Ouais, moi j'ai pas mal d'amis qui ont eu recours à la GPA, et ça s'est très bien passé. Après, enfin... c'est pas juste on prend l'enfant et on vient, et c'est des gens qui sont investis dans la grossesse de la dame, enfin c'est
et qui avait fait ça où, qui avait fait ça où, Ibrahim?
Alors ils ont fait ça avec une agence qui est à Los Angeles, mais qui faisait une mère porteuse au Canada.
D'accord.
C'est mais franchement, enfin, les enfants, ils sont pas plus malheureux, et c'est des enfants qui coûtent très cher. Enfin, il y a vraiment un vrai investissement financier, donc c'est vraiment des enfants qui sont voulus. En fait, c'est pas des accidents de parcours, c'est pas des... c'est... Mais après, oui, effectivement, il faut encadrer le truc. Et moi, je trouve ça dommage. Par exemple, moi, j'ai le cas d'une patiente ici que je soigne qui a un gros problème cardiaque, donc qui ne peut pas tomber enceinte.
Oui.
Et du coup, qui est la plus triste du monde en disant, si je dois faire une GPA, je dois aller à l'étranger. Alors que, en fait, le problème, je pense qu'avec la GPA, il y en a beaucoup qui l'associent à des couples homosexuels. Or, il n'y a pas que les couples homosexuels qui ont besoin de la GPA, en fait.
Après, c'est effectivement, quand vous dites la question des couples homosexuels, notamment il y avait eu cette remarque de sur Twitter, cette réaction sur Twitter de Marion Maréchal la semaine dernière, un couple d'hommes, en l'occurrence le couturier Jacques Mus, qui se félicitait sur les réseaux sociaux et qui lançait une forme de faire-part de naissance de son enfant. Et Marion Maréchal qui répondait « Où est la maman ?» C'est effectivement là, dans ces cas-là, et d'ailleurs la porte-parole du gouvernement avait réagi en disant que c'était une remarque homophobe. Vous, Ibrahim, vous dites en fait c'est pas la question de homme, femme, maman, pas maman. Il y a des témoignages de couples hétéros qui ont recours à une GPA. Ibrahim, je voudrais la réaction du professeur François Oliven sur cette question. Quand Ibrahim dit « Ils sont très voulus parce qu'ils ont coûté... » Au fond, ils ont coûté très cher. C'est un des signaux qu'ils ont vraiment été très désirés. Ça pose la question quand même, oui, de l'argent, quoi.
Alors, je vous ai vu réagir. De toute façon, la question de l'argent, elle est posée par le fait que les gens doivent aller à l'étranger et que les États-Unis sont le pays où c'est, entre guillemets, le mieux organisé, parce que c'est les rois de tout ce qui est le commerce et le business autour de la GPA, et que c'est hors de prix. Mais... effectivement, il y a des couples hétérosexuels. Ce que je voudrais dire aussi, c'est exactement comme dans les couples de femmes homosexuelles qui font des enfants. Il y a toujours des prêts. Vous savez, il y a quand même eu des études qui ont été faites sur ces enfants de GPA. Bien sûr, il y en a pas beaucoup parce qu'il y a pas beaucoup d'enfants qui ont montré qu'ils n'étaient pas plus malheureux. L'important, c'est d'avoir, beaucoup de psy le diront, une présence maternelle ou paternelle, maternelle quand c'est un couple d'hommes. Et moi, pour en connaître quelques-uns dans mon entourage, il y a toujours des femmes autour qui s'impliquent. Donc ces enfants, ils sont aimés, indépendamment de l'argent. De toute façon, moi j'ai reçu cette semaine, la semaine dernière, un couple d'une femme qui n'a pas d'utérus de naissance, elle a une malformation, qui est venue me voir pour prendre des informations, puisque moi j'ai pas le droit de l'aider, mais je discute avec elle comment, pourquoi, etc. Ben, cette femme, elle est évidemment, sa seule façon d'avoir un enfant, c'est la GPA. Évidemment, tout le monde va dire, elle a qu'à adopter un enfant, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc la GPA peut répondre à des indications réelles. Et à partir du moment où on arriverait, je dis bien on arriverait à faire en sorte que l'aspect, si vous voulez,
mercantile,
financier, voilà, c'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis bien sûr prioritairement contre l'exploitation de femmes qui feraient ça contre leur gré. D'ailleurs, juste une petite parenthèse. Je sais pas si vous avez vu que depuis quelques jours, tout le monde, surtout dans certains journaux, dit la Cour européenne a interdit la GPA. C'est pas du tout ça qui a été fait. Il y a une espèce de de gros mensonges qui est
en
dit
fait, la Cour européenne. Il y a une sorte de confusion. La Cour européenne, c'est
un, bah, le Parlement
européen a voté sur une résolution, et notamment une résolution qui était portée par François-Xavier Bellamy, hein, le candidat LR aux européennes, qui dans une proposition de loi plus large sur la question de la traite des êtres humains, a glissé la question de la GPA pour savoir si ça pouvait parfois être lié à cette question-là. Donc ça n'est en effet pas du tout une interdiction de la GPA.
Et surtout, ce qui a été acté, c'est de punir les gens qui, entre guillemets, forçaient des femmes à faire la GPA. C'est pas la GPA en entier qui a été contestée. C'est le fait d'avoir justement, je pense, des officines qui recrutent des femmes, je sais pas, dans le besoin, et à qui on va faire miroiter cette GPA comme une manière de gagner de l'argent. Évidemment, moi, je suis opposé à ça. Je suis pas non plus complètement.
On l'entend. On a entendu François Oliven. Merci à vous d'avoir défendu votre parti pris ce matin, ce 8 mai à la GPA. Le débat est donc ouvert. Effectivement, la ministre de la Famille disait il faut l'ouvrir. Bah, au moins, on l'ouvre sur RMC. Et merci aussi au témoignage d'Ibrahim. Il est 8h22 et vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Et salut Arnaud Demange.
Tout le monde va bien, vous avez passé un bon week-end.
Oui.
J'imagine que Manu, il a fait la fête vendredi soir. Car bonne nouvelle économique, les agences de notation Moody's and Fitch n'ont pas abaissé la note de la France. Ça, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, il était comme un ouf. Ça a été la méga teuf à Bercy. Il a mis des feux de Bengale sur les bouteilles de champomis. Il est monté sur le bureau. Il a fait l'hélicoptère avec sa cravate, en chantant sa victoire sur Doudjoul.
Un ministre organisé, personne ne peut le canaliser. Là, tu ne pars pas en fumée quand les comptes sont bien balisés.
Et après, il a débarqué en réunion à l'Élysée avec deux contrôleuses de gestion à chaque bras.
Je me remets un petit peu là.
Notamment de la bombe atomique.
Oui, tout à fait. Vous voulez parler d'Emmanuel Macron qui évoque une défense européenne commune qui comprendrait l'arme nucléaire française.
Pas du tout. Je veux parler de cette bombe atomique qui a été larguée dans les EHPAD. Cyril Ferraud quitte Slam.
Tout à fait. C'est une autre bombe atomique.
La bombe atomique. Cyril Ferraud animait Slam depuis 16 ans, alors qu'il a lui-même l'air d'avoir 16 ans. Je ne sais pas ce qu'il fait, il boit du sang de vierge, j'en sais rien. Alors, il craignait déjà un grand remplacement niveau Islam, maintenant il y a un grand remplacement niveau Slam dans les EHPAD, c'est un drame. Ça, je suis sûr que c'est encore un coup de la direction de France 3 pour rajeunir l'antenne. C'est quoi la suite de ce jeunisme à tout prix? Remplacer Cyril Ferraud par Maëva Guénam qui va épeler des mots de deux lettres. Thalassa présenté par Benjamin Castaldi, on pourra voter pour son cabillaud préféré. Des chiffres et des lettres remplacés par des emojis et des smileys. Alors qui va remplacer Cyril Ferraud? Il faut quelqu'un qui fasse fantasmer les vieilles dames, Jean-Charles Magnin ou moi, mais qui soit dispo. Il doit y avoir un casting à France 3 en ce moment. Alors monsieur, présentez-vous, on vous écoute.
Bonjour, je m'appelle Alain. Je viens de Bordeaux. J'ai toujours eu du succès auprès des femmes nées en 1937 et autour. Je suis un peu le Johnny Hallyday inversé. Les gens m'appellent l'idole des vieilles. Ça, les Madeleine, les Yvonne, les Monique, les Martine et les Claudine. Vous savez, si elles ont des problèmes de hanche aujourd'hui, j'y suis pas totalement étranger. Quand elles me voient débarquer, elles sortent l'artillerie lourde. Hein. J'en ai vu dépasser des strings de la couche confiance.
Ils font la version string, donc.
Voilà, en plus, ils font la version
string. Très bien.
Ça existe.
Revenons donc à cette histoire d'armes atomiques.
Oui, la bonne.
Arnaud, Emmanuel Macron est critiqué par les oppositions après avoir évoqué une défense européenne commune qui comprendrait même l'arme nucléaire française.
Alerte à la bombe est lancée.
Voilà, on est le seul pays à avoir la bombe. Et le président propose donc l'arme nucléaire française, qu'elle soit utilisable comme ça en cas de menace existentielle sur l'Europe, donc en cas de menace de la Chine, de la Russie, du Bangladesh, même si un peu moins de chance. On mutualiserait les armes européennes les plus destructrices. Nous, on a la bombe, mais les Hollandais ont leur cuisine pour empoisonner l'ennemi. Les Polonais ont leur haleine à 98 degrés. Oh. Les Italiens ont leur sens de l'organisation. La République tchèque, ils ont des prostituées mineures pour soudoyer les généraux adverses. On ne sait jamais. Ça peut servir si Saint-Germain-des-Prés veut faire sécession. L'Europe doit repenser sa défense. De toute façon, le président l'a dit lors de son discours à la Sorbonne. Il a dit « L'Europe,
peut mourir. Voilà, et bon lundi. C'est pas rassurant. Alors, pour lutter contre notre destruction programmée, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, je vous propose de voter pour Valérie Ayé, patronne d'une liste sur laquelle le plus gros nom connu, c'est François Bayrou en position non éligible.
Oui.
Tremble, Vladimir. On t'envoie Virginie Cayé. Tremble.
C'est Virginie Hayé,
mais lui-même ne sait plus.
Valérie Gérard. Gabriel Attal était ce week-end à la foire au Bulot.
Je pense qu'il était puni, Gabriel Attal. Oui. Macron n'est pas content de son implication sur les européennes. Donc Gabriel Attal, il a demandé: Monsieur le Président, j'aimerais assister aux réunions sur les options de sécurité pour les Jeux Olympiques. Ouais, et toi, tu vas plutôt aller à la foire au Bulot. Donc c'était métro, bulot, dodo pour le Premier ministre, avec 30 000 personnes qui mangent des bulots mayonnaise pendant 12 jours. Alors sachez que Gabriel Attal.
Mais quel mépris pour cette France qui a bon goût.
Alors, sachez que Gabriel Attal sera également cette semaine au concours du meilleur cracheur de noyaux d'olive.
Voilà.
À Périgueux, en Dordogne. Mercredi, il participera au championnat du plus gros mangeur de maroilles, un autre concours.
Wow. Enfin,
ça existe vraiment?
Non.
Vous savez ce que c'est le record? 1,28 kg en 20 minutes.
Non.
Avec un couteau et une fourchette. Puis Gabriel Attal.
C'est les 20 minutes qui m'impressionnent.
Puis Gabriel Attal ira faire le concours du cri de cochon à Trie-sur-Baïse.
Connu.
Allez, monsieur le ministre, criez comme un cochon. Gric. Il est mal barré, il va pas gagner. Et enfin, voilà. Bref, Gabriel Attal est parti déguster des bulots. Ça a dû lui faire bizarre, il a dû avoir l'impression de manger ses propres ministres. C'est comme si on recouvrait Franck Riester de mayonnaise et hop, un premier bulot. Allez, miam miam, on passe à Sarah El Haïry maintenant. Non mais vous imaginez Stanislas Guérini qui mange des bulots, on est à deux doigts du cannibalisme en fait, c'est la même espèce qui s'entre-dévore. Allez, bon petit déj, bon appétit.
Merci, et bon appétit. C'était Arnaud Demange.
Cette vision de Franck Riester.
Mesdames, et Arnaud Demange qu'on retrouve tous les jours à 7h20 et 8h20. On va rester dans les courses alimentaires, les bulots éventuellement dans les allées du supermarché Leclerc en l'occurrence, puisque mon invité dans un instant c'est Michel-Edouard Leclerc. Quels sont les prix qui baissent, quels sont ceux qui augmentent? On va parler shrinkflation, on va parler huile d'olive. Tiens, ça prend 20% l'huile d'olive, mais oui, je fais mon marché ce matin et ça se passe dans un instant sur RMC BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Edouard Leclerc.
Bonjour, bonjour Apolline, bonjour à tous.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du comité exécutif des centres Leclerc.
Comité stratégique.
Comité stratégique. C'était exécutif, c'est devenu stratégique.
Ouais, vous êtes, ça fait 6 ans que je ne suis plus un opérationnel.
Donc vous avez reçu depuis.
Oui, je suis président du comité stratégique, c'est-à-dire que je n'ai pas la responsabilité de conduire et de signer les actes du conseil d'administration.
Et on va d'ailleurs préciser qu'il y a 500... Non, j'ai regardé votre âge en précisant, je me suis dit qu'effectivement vous ne le faisiez pas, vous avez 71 ans, c'est bien ça?
Ouais.
Voilà. Alors on est précis sur les chiffres et sur un autre chiffre, 555 magasins qui sont effectivement des indépendants, chiffre d'affaires de 48,6 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de plus 10% cette année, une marge nette de 2,9% et 700 000 nouveaux consommateurs l'an dernier. Vous êtes le grand gagnant de cette période d'inflation.
C'est vrai qu'on a bien cartonné, on a appliqué à nous-mêmes nos propres analyses, celles que j'ai développées devant vous, avant peut-être les autres, avant plusieurs politiques qui ne croyaient pas au retour de l'inflation. Et donc les chefs d'entreprise qui dirigent le groupe Leclerc et qui exploitent hommes et femmes des magasins se sont appliqués à eux-mêmes des obligations de baisse de prix, de baisse de marge. Et aujourd'hui, ce succès, c'est le succès de cette mobilisation quoi, sur le terrain.
Et quand je dis d'ailleurs la période d'inflation qu'on vient de traverser, j'en parle au passé, on va voir dans un instant avec vous, parce qu'on va quand même vraiment pousser le caddie dans les rayons, si c'est vraiment derrière nous. Il y a certains rayons en particulier où ça continue à augmenter beaucoup, et notamment, je pense à l'huile d'olive. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de la crise agricole, ouais. Parce que là, pour le coup, elle est officiellement derrière nous. Enfin, c'est officiel depuis ce week-end, la FNSEA qui a en quelque sorte enterré la hache de guerre avec des annonces de Matignon précises sur notamment les retraites, les calculs, les prêts garantis par l'État aux agriculteurs. Avec le recul, on se dit quand même que pendant cette période-là, vous vous êtes un peu planqué. Est-ce que vous aviez quelque chose à vous reprocher?
Non, mais j'ai pratiqué un art, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, l'art de l'éviction, l'art de l'évitement. quand vous avez deux adversaires qui se tirent dessus et qu'on vous met au milieu, il faut savoir faire ninja, se dissimuler dans le paysage et les laisser se taper. En l'occurrence, je me suis extrait. Et d'ailleurs, Dominique Schelcher, le patron de Système U, et Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché aussi.
Tout à fait.
On s'est mis de côté parce qu'on voulait nous mettre sur le dos toutes ces tensions agricoles, alors qu'en fait, le dossier était politique, sur fond de surenchère syndicale au niveau agricole. Mais ce n'est pas Leclerc qui détermine les accords internationaux, le CETA ou autre. Ce n'est pas Leclerc ou Intermarché au Carrefour qui calcule le régime des retraites des agriculteurs. On n'a pas voix au chapitre sur le plan phyto-éco au niveau européen. On n'est pas responsable des dolines et de la gestion de l'eau. Donc c'était important de laisser Marc Fesneau et le gouvernement en face des agriculteurs qui avaient des réclamations qui les concernaient.
Plusieurs points. Quand je vous ai dit cette crise, elle est visiblement derrière nous et l'âge de guerre est enterré, vous avez un peu levé les yeux au ciel. Vous estimez qu'il y a encore de quoi parler de crise agricole ?
Oui, je pense qu'il y a crise du modèle agricole parce que, alors tout le monde lâche avant les européennes. D'une part, il y a les élections au sein des chambres syndicales agricoles.
Et notamment la FNSEA qui va repasser devant les électeurs agriculteurs.
Voilà, donc il y a une tension qui est due à la surenchère de coordination rurale, confédération paysanne.
Concurrence entre les différents syndicats agricoles.
Donc c'est à qui représentera le mieux les intérêts d'une agriculture qui souffre. Et puis d'autre côté, il y a l'agro-business qui s'exporte, profite, qui fait quand même beaucoup d'exportations françaises, qui transforme les produits, qui est le premier client de l'agriculture et qui essaye aussi d'attirer la bienveillance des syndicats agricoles.
Quand vous dites crise du modèle agricole, comment vous voyez, vous avez souvent une boule de cristal et je me souviens effectivement que ici même, j'étais une des premières à vous donner la parole au moment du début, même des frémissements de l'inflation et vous aviez donné quasiment un an à l'avance les chiffres de l'inflation alimentaire. Si je vous pose la question aujourd'hui du modèle agricole, comment vous voyez les choses dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans?
Eh bien, vous voyez, quand on parle tous les deux d'un modèle agricole, on se trompe. Et en fait, en voulant en plus faire une loi, une seule loi, avec un système de détermination de prix pour un modèle agricole, je pense qu'on se plante. En fait, il en va des agriculteurs comme des commerçants. Moi, je représente, comme Auchan ou Intermarché, Système U, on représente beaucoup de commerçants périphériques. Dans le monde du commerce, enfin, autour des banlieues, il y a des commerçants de centre-ville, il y a des commerçants forains, et puis il y a des commerçants aujourd'hui des plateformes de commerce. Tout ça se concurrence, mais cohabite. Mais on travaille pas pareil. Et dans l'agriculture, on oublie qu'il y a une agriculture vivrière qui est ancrée dans des terroirs, qui est pas directement en concurrence avec des productions espagnoles, marocaines ou autres. Il y a une agriculture qui trouve des débouchés dans la restauration avec des contrats de long terme. Et puis il y a l'agro-business qui fait son lit d'acheter dans le monde entier pour transformer les produits des Nestlé, mais aussi des Lactalis, des Bonduelle. Bonduelle, quand vous prenez ces légumes, ils viennent de 40 pays. Ils viennent du Kenya, ils viennent de Madagascar, etc. Et donc, vouloir résoudre les problèmes de prix et par derrière les problèmes de rémunération des uns et des autres avec une loi unique, je pense que c'est une connerie. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'adapter branche par branche au type de production. Alors la tentation de l'État, qui n'a pas beaucoup les moyens de l'action, c'est de faire une loi, chacun veut faire sa loi. Mais dans la réalité, je pense qu'on devrait plus régionaliser la PAC. Ça, c'est une idée du président de la région Bretagne. J'en ai déjà pas mal discuté avec lui. Il connaît ses
ouailles.
La politique agricole commune, il faudrait la régionaliser son application, les répartitions. Ça sert à rien de donner du prix s'il n'y a pas de vente, vous voyez, parce que un prix sans une vente, ça ne fait pas une rémunération.
Et là, vous évoquez la question aussi des prix planchers, des prix plafonds, toutes ces questions-là. Ce que le président de la République, à un moment, a évoqué comme la possibilité de faire un prix plancher, que certains agriculteurs redoutent comme devenant un prix plafond. C'est-à-dire, en fait, qu'ils n'arrivent pas, finalement, à décoller quand ils en ont besoin.
Oui, c'est la même thématique que la smicardisation des salaires. Quand on fixe un salaire de base, tout tourne autour, les dégrèvements, les augmentations, etc. Donc, c'est pareil pour le revenu agricole. L'agriculture, les agriculteurs ont peur de cette notion de prix plancher. En même temps, le président les met aussi un peu au pied du mur, parce que quand tous les syndicats demandent qu'on ne mette pas sur le marché, que ce soit la grande distribution, les industriels ou la restauration, un produit sans avoir déjà payé les coûts de production, les intrants, les matières premières, c'est quand même une sorte de prix plancher, honnêtement, que les,
est-ce que
les gens demandent.
Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord? C'est-à-dire, est-ce que là-dessus, quand vous allez négocier, je sais pas, le jambon, les légumes, est-ce que vous prenez en compte désormais une sorte de prix de base en dessous duquel vous ne descendrez pas?
Oui, je suis d'accord que, en tout cas, en tant que... Enfin, nous sommes des gens de terroir, hein, les Leclerc, les U, les Intermarchés, on vit avec nos agriculteurs, on prend les mêmes trains pour venir.
En général, quand vous commencez à dire, au lieu de dire Leclerc, quand vous dites U et Intermarché, c'est
vous avez
que...
Remarqué ça?
Vous, oui, j'ai remarqué que parfois, vous jouez un peu le collectif quand ça vous arrange, quoi, quand vous voulez pas être tout seul face au danger.
C'est peut-être pas faux, mais c'est en même temps vrai. Parce qu'en fait, on en discute beaucoup entre nous. Nous sommes des gens de terroir. N'oubliez pas, Intermarché, ça vient de Leclerc. Hein.
Pour revenir sur le, c'est qu'il y a des, il y en a quand même un. Et là, ouais. je vais parler d'un produit en particulier, le lait.
Oui.
On a vu que Michel Biro, le patron des Lidl français, a voulu monter au créneau et en quelque sorte vous entraîner tous. Et vous n'êtes pas ça... venu avec lui. Il a dit, ouais. Il faudrait décider que, au lieu de dire, bah, c'est moi qui vends le moins cher le lait ou moi, qu'on décide quoi qu'il arrive, qu'on vend le lait le même prix partout et qu'on arrête de tirer cette concurrence et qu'on fait même des contrats de long terme avec les producteurs. Pourquoi vous y allez pas ?
Il y a un mélange des choses. D'abord, nous faisons des contrats. Alors, Leclerc, c'était aussi pour vous, hein, que je cite les autres. Leclerc a des comptes 100% du lait. La marque de distributeur, le lait Délice de la marque Repère, c'est 250 millions de litres, 230 millions de litres. C'est du lait 100% français chez Leclerc. Et c'est des contrats, ce sont des contrats tripartites. C'est-à-dire producteur, transformateur, distributeur. Ce sont des contrats qui sont réactualisés en permanence sur du long terme. Et donc, on fait ce que Lidl fait sur ses marques de distributeurs. En plus, d'accord. Nous sommes le deuxième distributeur d'un lait qui est plus cher, qui est plus engagé, qui est par exemple, c'est qui le patron, vous voyez, c'est Carrefour qui l'a lancé. Je cite les autres.
Ce lait, c'est le pack bleu avec cette bulle avec marqué c'est qui le patron, voilà. Et qui est un lait qui s'engage à rémunérer suffisamment.
On est la plus grosse croissance de ce lait qui rémunère plus les agriculteurs. Ou même, vous avez Fair France, c'est un groupe de l'Est, un groupement de producteurs laitiers qui trouve chez nous une plus grosse rémunération alors qu'on ne vend pas son lait très cher. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, Leclerc, nous ne contestons pas la loi Egalim, cette loi qui dit sanctuariser, qui veut sanctuariser le revenu de l'agriculteur avant que le produit ne soit transformé ou distribué. Et là-dessus, on n'a pas de problème d'appliquer ça. Par contre, une fois qu'on a... Et d'abord, il faut que ce soit transparent, parce que moi, je n'achète pas à la ferme. Donc quand j'achète à Danone ou quand j'achète à Bonduel, il faut qu'ils me disent combien ils ont donné aux agriculteurs.
Et vous avez bataillé, vous d'ailleurs et les autres, là c'est moi, ouais, qui dis et Intermarché et Super U, vous avez tous bataillé pour qu'il y ait davantage de transparence. Vous dites quand ils viennent avec leur hausse de prix, je voudrais savoir ce qui est de l'ordre, ce qui relève de l'ordre de l'agriculteur. Je voudrais passer à un autre rayon.
C'est important parce que si nous avions dit la vérité, il n'y aurait pas eu cette inflation. C'est aussi parce que il y a eu 21% en deux ans d'inflation sur l'alimentaire. Si les industriels nous avaient dit la vérité, on aurait négocié plus durement la marge des industriels, parce que vous savez que...
auriez su ce que vous pouviez négocier.
Voilà, et on n'aurait pas touché... On pensait ne pas toucher à la marge agricole. Certains agriculteurs de coopératives ont l'impression qu'ils se sont fait avoir, mais ça c'est parce que leurs coopératives sont quelquefois pas transparentes. Mais autrement, vous avez bien vu, deux rapports de l'Inspection Générale des Finances, un rapport de la BCE, l'inflation, elle a surtout nourri les marges de l'agro-industrie, pas les agriculteurs.
Est-ce qu'elle est derrière nous ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est derrière nous quand on voit que par exemple l'huile d'olive prend 20%,
ouais.
Est-ce que malgré tout vous pourriez dire que de manière globale l'inflation est derrière nous ?
Le gros de l'inflation est derrière nous, ouais. Là, maintenant, ça va être avec des hauts et des bas, par catégorie, il peut y avoir des manques, des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. La météo est dégueulasse, donc les fruits et légumes, c'est compliqué. Je vous dis, la grande inflation de ces trois dernières années, on l'a bien renégociée lors de la dernière période de négociation.
Pour autant, les prix ne vont pas baisser, ils vont juste arrêter de monter.
Certains prix vont baisser. Alors, tout ce qui est PME, agricole, il y aura une inflation de 2 à 3%. Mais par contre, tout ce qui est alimentaire, transformé, on a obtenu des baisses. Ça va rentrer en application maintenant, puisqu'il faut attendre la confirmation,
la mise en rayon.
Et je pense que d'ici là, maintenant, le taux d'inflation va descendre à 2% dans les hypermarchés.
Est-ce que ça veut dire, Michel-Édouard Leclerc, qu'il y a des rayons où ça va franchement baisser, où ça va se voir, où on pourrait revenir à des prix d'il y a un an, il y a deux ans?
Non, je crois
aucun
pas.
zéro rayon?
Peut-être, mais je pense que dans un taux d'inflation de 2%, il y a peut-être des catégories, le marché du sucre reflambe là, ou du cacao, le marché du cacao reflambe. Donc le cacao qui hier a servi à vendre, à fabriquer le chocolat qu'on vend aujourd'hui, il ne traduit pas le prix du cacao à renouveler. Mais c'est...
Pourquoi l'huile d'olive, pourquoi plus 20%?
Il faut demander ça à M. Rousseau, à Avril.
Oui, Avril, la FNSEA, qui effectivement est président non exécutif du groupe Avril, qui produit notamment les huiles le CIA. Ouais. Vous n'avez pas la réponse, vous?
Là, non. Non, sincère.
C'est vrai? Mais oui. C'est louche, ça. Ça veut dire qu'ils nous disent que c'est la météo. Vous n'êtes pas complètement sûr.
Invitez-le.
Oui, je ne manquerai pas, évidemment.
Depuis, ça fait combien de temps, la crise agricole? Trois mois, là? Hein? Pendant les mois où je ne suis pas venu à la télévision, personne ne m'a contacté, hein, ni le ministre de l'Agriculture, ni les syndicats.
Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que vous...
Ça veut dire qu'on nous mettait en cible, mais une fois qu'on ne joue pas le jeu, ils n'avaient rien à nous demander.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous estimez là, par exemple, que c'est les industriels, en l'occurrence, par exemple, le groupe Avril, qui ne joue pas le jeu, qui gonfle artificiellement?
En tout cas, nous n'avions pas à être désignés, montrés du doigt aux agriculteurs pour résoudre cette crise.
Alors que vous estimez que des groupes industriels comme Avril, par exemple, prennent une grande part en réalité, c'est-à-dire que lui-même serait l'arroseur arrosé ou le pompier pyromane?
En tout cas, l'industrie agroalimentaire internationale a fait ses choux gras de cette inflation. Les produits pour chiens et chats, les pet food, là, c'est incroyable les marges qu'ils ont sorties. Tous les grands de l'agroalimentaire ont sorti des marges allant jusqu'à 15 et 20% de marge. C'est pendant la crise et pendant que les consommateurs devaient payer des hausses de pâtes ou des hausses d'articles de 30 à 40%. Donc faut pas... Il y a des moments, il faut savoir ne pas être la cible.
Et on posera la question, évidemment, vous pouvez compter sur nous. Shrinkflation, réducflation, comme on dirait en français, c'est-à-dire le mélange à la fois de réduction et d'inflation. C'est le principe de diminuer la quantité réelle d'un produit tout en maintenant le prix, voire même en l'augmentant. C'est une forme de tromperie ou de jeu sur la perception du produit. À partir du 1er juillet, vous aurez l'obligation légale, vous, les distributeurs, les commerçants, de donner l'information, d'alerter les consommateurs. En gros, de mettre une sorte de warning à l'entrée du rayon en disant attention, ces chips, en fait, vous avez l'impression qu'il y en a autant, mais il y en a moins dans le paquet. Vous êtes assez vent debout, c'est-à-dire vous allez être obligé de le faire, hein, c'est légal désormais, mais vous êtes assez vent debout. Pourquoi c'est vous les commerçants? Pourquoi c'est pas les industriels?
Voilà. Non, moi, pas de problème, un industriel a sa liberté de composer un produit, de le changer.
C'est pas illégal, hein. D'ailleurs, on va préciser les choses.
Non,
hein.
Mais d'ailleurs,
le moment où c'est marqué sur le produit.
Les collectivités locales, dans les cantines, changent les menus en fonction de du prix des choses. Hein. C'est un jour on met du lieu jaune, après on met du taco. On essaie de faire des prix de repas qui tiennent. Dans la restauration aussi, ils font la même chose. Les journaux. Pendant l'été, il y a moins de pagination quand on parle des journaux papier, hein, et on change pas
le prix. Ils sont plus maigres, les journaux.
Bon, alors tout le monde le fait un peu. L'important, c'est que ce soit transparent. L'important, c'est que ce soit assumé et dit.
Ça va l'être désormais, puisque vous allez devoir mettre un petit panonceau.
Ce qu'avec Dominique Schelcher de Système U et moi-même nous disons, c'est que nous allons le faire. Nous allons mettre cette transparence, cet affichage. Mais nous sommes dépendants de l'information que nous donne l'industriel. Donc nous ne voulons pas prendre la responsabilité juridique de ce qui doit échoir à l'industriel. C'est tout ça.
Pourquoi c'est pas l'industriel à qui on l'a demandé?
Je pense que c'est compliqué. Il faut demander à Olivier Grégoire.
Je sais pas, imaginons un paquet de chips, par exemple. Il décide de modifier le contenu et non pas le contenant. Donc on a l'impression d'acheter le même paquet de chips, mais il y a moins de chips dedans. Effectivement, pourquoi Olivier Grégoire, elle ne dit pas aux fabricants de chips, c'est à vous de mettre sur le paquet au moins les premiers mois du changement.
Je pense que ça devrait être aux industriels.
Il y a une forme de lobbying, là, vous pensez, qui a fait qu'ils ont contourné, qu'ils ont préféré vous le demander à vous?
Je pense que, tout simplement, sur un plan pratique, Olivia Grégoire a donné suite à des demandes de Foodwatch d'un certain nombre de... Oui, c'est Foodwatch qui a beaucoup demandé ça. Et donc, sur le plan juridique, ça doit être assez compliqué à exiger ça. Donc, du coup, elle nous le demande.
Finalement, c'est vous qui allez mettre les petits panonceaux. Vous avez 710 stations essence, les centres Leclerc. Le prix de l'essence qui monte à nouveau et qui pourrait presque atteindre les 2 euros parfois. Il y a quelques temps, vous avez déclaré, de manière assez énigmatique, j'ai trouvé que la phrase, finalement, demandait une explication. Vous avez dit, aujourd'hui, Leclerc n'est pas dans les conditions de faire une opération à prix coûtant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous ne voulez pas le faire ne pouvez pas le faire?
Non, j'ai très envie de le faire, mais quand on fait une opération à prix coûtant, d'abord, c'est une opération qui est réglementée. Quand on dit prix coûtant, il faut que tous les centres Leclerc soient à prix coûtant. C'est l'aspect publicitaire qui est réglementé. Donc, il faut s'assurer que tout le monde puisse le faire, quels que soient les dépôts. et qu'on puisse se réapprovisionner. Il faut savoir que quand vous faites une opération à prix coûtant, c'est 20% d'accroissement des ventes, et donc il faut réapprovisionner les cuves en temps, très très vite, parce que sinon...
Donc vous y êtes plutôt favorable ?
Donc j'y suis favorable, on n'est pas loin du prix coûtant, parce que en fait ce qui compte plus pour moi c'est d'être le moins cher. Donc aujourd'hui, enfin, le gasoil, on doit être aux alentours de 1,75 quand des stations Total se baladent à 1,95. Il est vrai que Total refait des efforts sur sa marque Total Access, mais autrement, ce qui tire le marché, c'est Leclerc, Système U, Intermarché, je les cite
encore. En fait, vous aimeriez que Total montre l'exemple, quoi.
Ben, on s'est fait un peu avoir quand même, rappelez-vous, l'année dernière, quand nous avons fait, ainsi que Carrefour, des opérations à prix coûtant dans la durée, mais on nous avait promis, le gouvernement, des efforts pour nos approvisionnements, et on nous avait promis la convocation des raffineurs. Alors quand on voit le résultat des raffineurs et de Total, et de Mobil, et d'Exo, qui ont fait des profits considérables, donc on aimerait un certain partage de l'effort. En tout cas, nous, nous savons ce qu'il faut faire pour nos consommateurs, rester le moins cher, mais de là à monter une opération sans garantie d'être réapprovisionné pas cher, on a besoin d'un engagement des pouvoirs publics.
Michel-Edouard Leca, vous faites de la politique?
Oui.
En fait, au quotidien, vous, même là, à mon micro, ouais, vous faites de la politique. Ouais. Pourquoi vous ne le faites pas vraiment?
Alors, c'est une question, comme je l'ai dit, qui m'a toujours taraudé. On m'a proposé souvent de rentrer sur des listes, de me présenter, etc. Je me pose toujours la question de ma meilleure utilité. J'ai pas le melon, hein. Je cherche pas à faire
Qu'est-ce
de la figuration. Ce qui me retient, c'est l'efficacité. Je trouve aujourd'hui, j'ai l'impression aujourd'hui que grâce au groupement Leclerc, grâce aussi à la dialectique, à la concurrence avec les autres distributeurs, j'ai l'impression de là où je suis, que je suis plus efficace que des politiques
qui sont plus
ancrées dans les terroirs. Aujourd'hui, avec la loi contre les cumuls, nos élus ne dirigent plus les cantines, ils dirigent plus des appels d'offres et tout ça.
Ils sont plus maires.
Donc moi, une des choses, par exemple, pour ramener l'Europe à la maison, pour faire en sorte que les Français s'approprient ce qui se passe en Europe, je voudrais qu'on revienne là-dessus et qu'on donne un ancrage territorial, départemental, régional aux élus européens. Il faudrait qu'ils aient un mandat local.
Dans ce cas, ça vous aurait tenté, un mandat de député européen ?
Non, mais je pense que ça m'aurait donné des interlocuteurs que j'aurais pu aider. On peut faire de la politique en participant à des équipes, à de la réflexion. On peut se donner, on peut être engagé, c'est pas simplement communiquer avec d'autres ou faire de la figuration sur des listes. On m'a proposé ça plusieurs fois. Mais vous voyez, par exemple, pendant le Covid, si j'avais été ministre, j'aurais pas pu aller chercher des masques. On n'avait pas le droit. Dans la distribution, nous, Thierry Cotillard, on a demandé à Bruno Le Maire s'est fâché avec le ministre de la Santé, et on est allé chercher nos masques, et en une semaine, on a trouvé les masques que l'État...
Et vous les vendiez, on a fait la même chose avec
les tests de grossesse, et on nous en a retiré le droit de vendre. Plus personne, tout le monde a oublié. On a vendu des tests de grossesse dont on a baissé les prix, et maintenant c'est retourné en pharmacie. Et l'agriculture, il n'y avait plus d'export, il n'y avait plus de restauration. Toute la distribution française a vendu toute l'agriculture française. Donc vous voyez, quand je pose la question, est-ce que c'est mieux d'être ministre de l'agriculture ou s'occuper de l'agriculture chez Leclerc, j'ai l'impression d'être plus utile, en tout cas plus efficace.
Merci Michel-Edouard Leclerc d'être venu ce matin en tant que président du comité stratégique des centres Leclerc. 8h53 sur RMC BFM TV. Et tout de suite, les grandes gueules sur RMC avec vous, Alain Marchal. Quel est le programme ?
Nous reviendrons sur ce drame de Châteauroux, encore une rixe avec des couteaux, un jeune homme de 15 ans qui a été tué. Un adolescent, l'auteur du coup de couteau, serait un Afghan en situation régulière, mais il était connu des services de police pour deux vols au couteau réalisés. Et là, il y a quelques jours, quelques semaines, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas l'enfermer, il avait 15 ans. Donc on reviendra sur cette question de la violence des mineurs avec vous, bien sûr, au 32-16. On reparlera de la direction de Sciences Po qui a réussi à négocier l'arrêt du blocage contre des agora, des assemblées générales autour de la cause palestinienne. Est-ce que la direction de Sciences Po s'est couchée ? Et puis la semaine qui démarre, le coup d'envoi d'un mois de pont avec ses 4 jours fériés, dont 2 en 2 jours. Est-ce que c'est une cata pour l'économie française ? 32-16 pour venir en discuter avec les GG. Aujourd'hui, nous serons avec le patron de PME Mehdi Guézard, avec l'avocat Charles Consigny et avec le cheminot et syndicaliste Bruno Poncé pour discuter et débattre avec les GG. Vous savez que vous avez le 32-16 à votre disposition.
A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour Les Grandes Gueules.